RJB Info.
Le journal Sarah Carole.
Comment intégrer la technologie à l'école? C'est l'un des thèmes de la 17e journée des enseignants francophones du canton de Berne. Elle se déroule en ce moment avec 700 personnes à Tramelan. Nous accueillerons un invité en direct dans un instant. Le message du canton du Jura aux citoyens de Moutier est quasiment prêt. Sauf grande surprise, le Parlement jurassien devrait l'accepter massivement demain. Il ne reste que quelques heures avant le lancement du Tour de Romandie. Le prologue se dispute cet après-midi à Aigle, capitale mondiale du cyclisme. La pluie est à l'horizon, le risque d'averse se renforcera cet après-midi avant une pluie généralisée ce soir. La neige pourrait tomber à partir de 800 mètres cette nuit. Il fait 10 à 13 degrés. Un débarquement de professeurs à Tramelan. La 17e journée des enseignants francophones du canton de Berne se tient aujourd'hui à La Marelle. Près de 700 personnes ont fait le déplacement. Le but est de parler de l'école de demain et des défis posés aux enseignants. Cette année, l'accent est mis particulièrement sur l'intégration, que ce soit des élèves en difficulté ou des migrants, mais aussi de l'intégration de la technologie à l'école. Bertrand Boyat, vous êtes sur place.
Et oui, Sarah, je me trouve avec Pierre-François Cohen, docteur en sciences de l'éducation, professeur spécialisé à la HEP de Fribourg. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce matin, vous avez tenu une conférence sur l'usage des technologies dans le monde de l'enseignement. Avec l'arrivée de ces moyens, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un tournant pédagogique ?
Oui, je crois, l'école est vraiment face à un grand tournant. Ne serait-ce que simplement parce que les élèves ont totalement approprié ces outils-là, parce qu'ils sont devenus très faciles, parce qu'ils contaminent leurs activités. Et là, l'école doit, je dirais d'une certaine manière, s'approprier elle aussi ces nouveaux outils.
Et justement, en quoi l'école a évolué avec l'arrivée de ces technologies ?
Alors bon, l'histoire des technologies et de l'école est une très très longue histoire. Si on remonte aux années 70 avec les mass médias et qu'on arrive aujourd'hui avec l'iPhone ou les tablettes dans les classes, je dirais que l'école a eu toujours une attitude relativement prudente par rapport à ces technologies. Elle l'a volontiers intégrer celle qui ne la bousculait pas trop, et puis elle a résisté quand il s'agissait d'avoir vraiment des changements, je dirais, de paradigme ou de façon de voir le processus d'apprentissage, ou disons simplement le rôle du maître et de l'élève.
Là, au XXIe siècle, vous avez un bon exemple d'utilisation de la technologie en classe de manière adéquate.
Oui, par exemple, on pourrait imaginer, vous imaginez des enfants qui font apprennent une figure en éducation physique, ils doivent faire un tourniquet, admettons. Alors, dans le temps, enfin jusqu'à maintenant, on pouvait dire, voilà, c'est le prof qui regarde les élèves les uns après les autres, ils font leur culbute et leur dit, ah, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, partir plus tôt, partir plus vite. Avec les technologies, on peut imaginer, par exemple, que les élèves se filment entre eux, qu'ils regardent leur propre production, que le maître n'est plus là simplement pour dire c'est juste ou faux, mais il leur donne un papier avec des critères. Est-ce que tu as bien mis les mains à la bonne place? Tu as tendu les pieds? Tu as maîtrisé ton corps? Et là, au fond, il y a vraiment un grand intérêt à utiliser les technologies parce qu'elles révèlent quelque chose que l'élève, auquel l'élève ne peut pas accéder sans ça.
Il y a aussi la question de la formation des enseignants à ces nouveaux moyens, à ces nouvelles technologies. Comment mettre le corps enseignant à jour, à niveau, pour les inciter à utiliser ces moyens?
Bon, je dirais qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits dans le domaine de la formation depuis les années 2000. Hein, tous les enseignants ont passé dans les différents cantons, ont subi des programmes de formation. Je crois que l'idée, à mon sens, n'est pas de former les enseignants à faire tous pareil, de manière identique, mais c'est plutôt de répondre à leurs besoins. Dans ce sens-là, la formation, pour moi, elle doit se faire à partir des besoins du terrain, à partir du besoin des enseignants qui disent, ben voilà, moi j'aimerais développer tel aspect, est-ce que la technologie est une réponse? Si on vante simplement les bienfaits de la technologie dans une perspective un peu messianique, comme ça en disant voilà, c'est ce qu'il faut faire, ça ne va pas accrocher. Par contre, si l'enseignant lui-même, à partir de ce qu'il fait, comprend que ça peut être une solution, c'est une réponse à ces problèmes et quelque chose à investiguer, ça peut être intéressant.
Dernière question, la technologie est aussi source de danger avec le problème d'addiction, de dépendance, un manque ou une baisse de l'attention. L'école à l'avenir, c'est peut-être un mélange entre tableau noir et cahier et puis utilisation de ces plateformes, de ces outils technologiques.
Probablement que l'école sera un métissage de toutes ces technologies, comme je le disais, en fonction des besoins des élèves. Il n'en demeure pas moins qu'elle est face à des défis, notamment en termes d'attention. Ces outils sont très destructeurs d'attention, donc il faut vraiment que les enseignants soient préparés et vigilants, les parents aussi, à tous ces aspects.
Pierre-François Cohen, merci beaucoup d'avoir été en direct dans ce journal. On rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'éducation, professeur spécialisé à la HEP de Fribourg et que ce matin, vous avez donné une conférence lors de la journée des enseignants francophones du canton de Berne.
Merci Bertrand, et on reviendra sur cette journée dans notre édition de 18h. À noter qu'elle est mise sur pied par le syndicat des enseignants du Jura bernois. Le Parlement jurassien se prépare à vivre un moment important en vue du vote sur l'appartenance cantonale de Moutier. Le législatif cantonal doit se prononcer demain sur le message qui sera adressé par le canton du Jura aux citoyens de la cité prévotoise. Le document réunit les propositions élaborées par le gouvernement pour garantir un accueil idéal de Moutier dans le Jura. Le texte ne devrait pas susciter de grands débats demain au Parlement. Les précisions de François Comte.
C'est un vote franc et massif qui est attendu, voire même unanime. La commission des affaires extérieures du Parlement soutient d'ailleurs sans réserve le message aux prévotois. Elle note que les propositions sont adéquates et équilibrées. La commission ne soumettra que deux amendements au plénum avec l'aval de l'exécutif. Les deux textes portent sur la réforme des institutions. Pour la commission, une seule législature de 5 ans sera suffisante pour mener à bien le dossier. Durant ce laps de temps, Moutier formera donc un district et une circonscription pour l'élection du Parlement. Le délai doit permettre de créer un cercle électoral unique sur le territoire cantonal. La commission a toutefois souhaité que soit ajoutée à ce projet la possibilité de mettre en place un nouveau découpage électoral qui garantisse une représentation équitable de l'ensemble de la population jurassienne. Au-delà de cet aspect, le Parlement jurassien devrait donc donner un signal fort pour l'accueil de Moutier en soutenant sans barguigner le message adressé au corps électoral prévotois.
Et vous retrouvez plus de précisions sur cette question sur notre site internet rjb.ch. Le gel a dévasté les cultures du Valais. Les dégâts suite aux gelées nocturnes la semaine dernière sont immenses, du jamais vu de mémoire d'agriculteurs. Selon une première évaluation, environ 2000 hectares de vignes, soit plus de 40% du vignoble cantonal, ont été touchés. Globalement, presque toute la récolte de ces vignes est perdue. Et pour les abricotiers, seul un tiers s'en est sorti indemne. Le nombre d'abricots sera donc diminué au moins de moitié. Le gel a malmené presque toutes les régions viticoles du pays. En Suisse romande, les vignobles du Valais et du Vuilly semblent les plus touchés, puis ceux de Neuchâtel et du canton de Vaud dans une moindre mesure. La Suisse promet 40 millions de francs au Yémen. Didier Burkhalter a annoncé ce matin débloquer cette somme pour les 4 années à venir en ouverture d'une conférence des donateurs à Genève. L'ONU appelle la communauté internationale à plus de générosité. Elle a jusqu'ici récolté 300 millions alors qu'elle a dit avoir besoin de plus de 2 milliards pour éviter une catastrophe humanitaire. La population manque d'eau, les salaires des fonctionnaires ne sont pas versés et la guerre complique l'acheminement de l'aide. On écoute Didier Burkhalter.
On peut dire que la situation là-bas, elle est mal connue. On n'a pas pris assez conscience de ce qui se passe. Ce drame est terrible au Yémen. Il y a l'équivalent de plus de 2 fois la population suisse qui est en besoin d'aide humanitaire de base. Donc il y a un besoin urgent, mais il y a aussi un besoin sur la durée. Donc il faut sauver les gens dans l'urgence, et notamment les enfants. Mais il faut aussi construire des perspectives pour toute cette population. La Suisse a accepté d'être le lieu de cette conférence, aussi parce que nous estimons que le monde ne doit pas fermer les yeux sur la situation du moment et sur les possibilités de travailler sur les causes et de réduire les causes de ce conflit.
La Confédération a par ailleurs rappelé être prête à accueillir des pourparlers pour mettre fin aux affrontements qui ont fait plus de 8000 morts et plus de 40 000 blessés, souvent des civils au Yémen.
Vous écoutez RJP, il est midi 24.
Sport. La planète cycliste a les yeux rivés sur la Suisse. Le Tour de Romandie s'élance cet après-midi. Un prologue est au programme à Aigle, où se trouve le centre mondial de la discipline. Les coureurs en découdront sur un tracé de 4,8 km. Pas de round d'observation, ça va démarrer très vite et très fort, d'après le directeur de la boucle romande, Richard Chassot.
Vous savez, nous avons une équipe tellement forte sur ce Tour de Romandie et aussi avec un gros drapeau suisse sur notre maillot, on est évidemment super motivés à réaliser quelque chose de bien, d'autant plus avec les nombreux fans qui seront au bord des routes pour nous soutenir. Après, sur la question de savoir qui sera leader entre TJ et moi, je pense que c'est la course qui va le décider. Il y a le prologue aujourd'hui et demain, on démarre directement avec une étape qui pourrait faire des dégâts. Donc on va laisser la course se faire et décider ça plus tard.
Et ce n'était pas encore Richard Chassot, vous l'aurez reconnu, qui s'exprimait, mais Richie Porte. Richie Porte, un des coureurs australiens qui s'élancera cet après-midi pour l'équipe américano-suisse BMC. Richard Chassot, donc, qui revient tout de suite sur ses démarrages du Tour de Romandie cet après-midi à Aigle. On l'écoute.
Mise en route exigeante, évidemment, parce que le prologue fait quand même presque 5 km, donc c'est une belle distance pour un prologue. Dans les vignes, ça signifie un peu de montée, bien évidemment, donc un peu de technique aussi. Bon, début de parcours assez difficile en faux plat montant, donc il faut être dans le rythme tout de suite pour monter à Ivorne. Derrière, une descente assez rapide, assez route étroite, assez technique, pour revenir sur un boulevard pour nous ramener dans Aigle. Puis ensuite, un virage à 180 degrés à peu près à 300 mètres avant la ligne. Donc voilà, il y a un peu de technique, il y a de l'engagement physique, il y a de la relance, donc un beau prologue, ouais.
Ce départ aura donc lieu à 14h53. Et en tennis, Maria Sharapova pourrait jouer à Roland-Garros. Selon le journal de Telegraph, la joueuse de tennis russe va bénéficier d'une invitation de la part des organisateurs de la deuxième levée du Grand Chelem. Elle concerne le tableau des qualifications qui débutera le 22 mai. Maria Sharapova revient aux affaires cette semaine après une suspension de 15 mois pour dopage. Elle devra remporter 3 matchs pour entrer dans le tableau principal du tournoi qu'elle a déjà remporté à 2 reprises.
Merci Sarah. Et la suite du sport tout comme de l'info, c'est à retrouver sur notre site et puis ça reviendra surtout à 13h. Nous, on va passer à la météo et puis ensuite, direction la suite de notre midi rétro. Cet après-midi, le soleil devrait être inexistant quasiment. Par contre, les nuages et la pluie, eux, sauront bien prendre le relais. Du côté des températures, on aura un maximum aujourd'hui de 10 degrés à Tavannes, Tramelan et Saint-Imi, contre 12 pour Moutier et Delémont, et 13 degrés seront attendus au meilleur de la journée à Bienne et La Neuville. Et dans la suite, les experts de Météo News prévoient un temps encore très nuageux avec de fréquentes pluies demain matin, puis un peu plus calme l'après-midi. Attention toutefois, des flocons pourront tomber, même des 500 mètres. Enfin pour jeudi, le temps sera instable avec des éclaircies plus ou moins belles en pleine, mais aussi des averses, surtout en seconde partie de journée. Le long des reliefs, par contre, les choses devraient être un peu moins intéressantes.